18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U. Ce soir, nous vous proposons dans la quotidienne de C'est vous qui le dites une émission certes assez courte mais tout aussi énergique puisque nous accueillons la chanteuse Willy qui nous présente son nouveau single Tika sorti le 7 mars dernier et pour parler de ses futurs projets. Bonsoir Willy.
Bonsoir Radio U.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de me recevoir, merci à toi de me recevoir.
Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer la signification de ton nom, Willy ?
Oh, la signification de mon nom, Willy. En fait, mes parents, peut-être qu'ils attendaient un garçon, mais ils ont décidé de m'appeler Willy. Et en fait, l'orthographe précise, c'est mon bassiste. À l'époque, on sortait de studio, il m'a rendu à l'époque mon CD, donc c'était ma démo. Et il avait du coup écrit Willy comme ça, et je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça trop cool.
Donc tu as un grand parcours musical dans ta carrière, avec un passage à New York. Est-ce que tu dirais que dans ta manière d'apprendre la musique, ça a été assez autodidacte ?
Ah, très bonne question. En effet, ma manière d'apprendre la musique a été assez autodidacte. Je suis du coup de cette famille multiculturelle où il y a beaucoup de musique en fait depuis que je suis petite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, on est beaucoup de mélomanes, donc on compose, on chante, on fait de la guitare à l'oreille. Et c'est vrai que j'ai été autodidacte. J'ai eu un passage avec des cours de chant, mais ça n'a pas duré longtemps.
Donc le bassin familial aussi, ça a été une grande source aussi d'inspiration pour toi.
Oui, beaucoup, beaucoup. Ma famille, du coup, je suis issue du Congo. Et ma tante, donc, qui s'appelle, j'appelle affectueusement Tantine Nana, donc, est la chanteuse donc, du groupe OK Jazz, un groupe très connu au Congo, puisque je suis du coup du Congo, Kinshasa. Et mon oncle est guitare basse pour un autre groupe qui s'appelle Zaiko Langalanga, un très gros groupe aussi au Congo. Et c'est vrai que j'ai baigné dedans depuis que je suis petite. Ma grand-mère chantait, ma mère a une très belle voix et autour de moi, il y a toujours eu des gens qui chantaient. Donc voilà comment. En fait, ça a été une évidence, mais pour devenir lead et être là avec vous aujourd'hui, ça n'a pas été tout à fait facile. Hein. Il y a quand même eu un petit chemin. Mais oui, c'était une évidence, en effet.
Donc on a parlé donc de Kinshasa, là d'où tu viens, de New York. Est-ce que tous ces voyages, à quel point ces voyages-là, ils ont influencé ta musique ?
Wow, à quel point cela a influencé la musique, tous les voyages. En gros, ce que j'aime dans mon parcours, c'est vraiment le métissage, la curiosité, la découverte. Moi, j'ai vraiment cette double culture. Je suis et française et congolaise. Au Congo, par exemple, dans ma famille, je sais que j'ai des racines aussi japonaises. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de métissage dans ma famille. Et c'est vrai que les voyages m'ont toujours fascinée. Et musicalement, tout ce qui est jazz, soul, musique, rhythm and blues, ça m'a toujours appelée. Je me rappelle, mes premières compositions étaient en anglais. Et après, au fur et à mesure, ça s'est décliné en français parce que finalement, ce sont vraiment mes racines, hein, la France et le Congo. Et mes voyages, en fait, m'ont beaucoup apporté parce que ça m'a ouvert les yeux sur qui j'étais vraiment, culturellement. Et je pourrais même dire que le fait d'avoir voyagé aux États-Unis et d'avoir présenté ce que je faisais là-bas m'a encore plus poussée à composer en français, en lingala, parce que là-bas, justement, cette double culture, ils ont vraiment, vraiment aimé, quoi.
Et pour continuer aussi sur les influences, donc tu as parlé tout à l'heure de OK Jazz, donc un groupe de rumba congolaise. Et oui. Donc c'est ce qui t'a un petit peu éveillé. Et du coup, maintenant tu fais de la musique qui a aussi des sonorités groove, pop rock. Qu'est-ce qui a un petit peu emmené ce chemin vers ces autres disciplines ?
Ces autres disciplines, c'est-à-dire tout ce qui est groove et un peu pop rock,
c'est oui, ça ? C'est ça, pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, ce qui a emmené ça, comme je disais, c'est vraiment ma culture. C'est vrai que, étant congolaise, on va dire que la musique congolaise, et même qui a été reconnue hein, comme à l'UNESCO et tout, etc., c'est vraiment la rumba congolaise. Mais moi, en gros, comme je dis souvent, je défends le français, je défends le lingala, et je veux prouver que le lingala peut sonner avec la pop et le rock, parce que la pop et le rock, la variété, finalement, c'est ce que je vis aussi au quotidien en étant aussi française. Donc je me suis dit, pourquoi je ferais du pop rock en anglais et en français alors que je peux aussi bien le faire en lingala. Et vice versa, et le lingala, ça sonne très bien avec d'autres sonorités, pas forcément avec la rumba. Par contre, en effet, les influences rumba, on les reconnaît aussi dans ma manière de chanter, les mélodies que je peux prendre quand je chante.
Mais justement, dans Tika, tu chantes en lingala. Et donc, yes. C'est, ça continue aussi sur donc, le multilinguistique de ta musique, en fin de compte. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais continuer de cultiver dans les prochains morceaux, dans les prochains albums ?
Oui, en effet, c'est vraiment ce que je souhaite cultiver, c'est cette richesse. Cette richesse, j'ai la chance de pouvoir maîtriser en fait, d'être bilingue, d'avoir cette belle langue maternelle, le lingala, et j'ai la chance aussi de maîtriser le français. Donc vraiment tout au long de ma carrière et même mes futures sorties, il y aura vraiment cette touche et française et congolaise. À travers le lingala et le français. Et je sais que je vais bientôt sortir un single qui s'appelle Te Quiero. Et dans Te Quiero, il y aura de l'espagnol en plus. Donc j'aime vraiment les langues.
Donc je propose de ne pas faire durer plus le suspense et de faire écouter à nos auditeurs donc ton single Tika. Et on se retrouve juste après.
Super, merci. À toutes.
Radio U et c'était Tika de Willy. Willy qui est toujours avec nous. Et donc Tika, ça signifie laisse en lingala, mais plus largement, il parle de quoi ce titre ?
Ah, ce titre que j'aime vraiment beaucoup. Donc, en effet, Tika, qui veut dire laisse, parle vraiment de résilience. C'est vraiment un message d'espoir, un message de positive attitude. Quand on est rabaissé, quand on est victime de harcèlement, quand on n'est pas bien dans sa peau, quand il y a plein de choses qui se passent pas bien autour de soi. Et ça raconte aussi un peu mon histoire. Et en fait, Tika, c'est aussi l'histoire de cette maman, ma maman. Dans les phases où ça ne va pas bien, ben elle me dit toujours Tika. Dans les phases où il y a des moments dans ma vie où j'ai été calomniée ou rabaissée, elle m'a toujours dit Tika, c'est-à-dire laisse et continue ton chemin. Embrasse cette destinée, en fait, ce chemin pour atteindre justement le but que tu es censé atteindre et arrête de perdre ton énergie. Sur des choses en fait finalement super négatives. En fait, on n'a qu'une seule vie et il faut avancer. Donc vraiment, Tika, c'est vraiment un hommage aussi à ma maman et à toute cette éducation que j'ai eue, où c'est vraiment de la résilience. On y va, on a un chemin, on a une destinée, il faut qu'on l'embrasse coûte que coûte et essayer d'être positif, quoi. Donc c'est le message de Tika.
Et justement, en plus d'avoir sorti le single, tu as réalisé un clip pour ce titre. Et donc, sur ce titre, on peut voir donc des plages bretonnes, puisque tu es de Rennes. Est-ce que aussi, il y a du coup une volonté de... On parlait tout à l'heure de mixité, de prolonger cette idée-là en parlant aussi de la Bretagne.
Exactement, je suis tombée, mais j'en ai des frissons pendant que je te parle. Je suis tombée amoureuse de la Bretagne. Et je voulais vraiment que ce clip puisse être tourné en Bretagne. En effet, je suis de Rennes. Et je voulais montrer les beaux paysages. Et encore là, c'est quoi ? C'est un dixième de ce qui nous entoure. Et vraiment tout ce paysage breton avec le caractère, la mer, la forêt, la diversité bretonne. Et je suis trop contente parce que ce paysage justement breton, je trouve que c'est un beau mariage avec ce morceau qui est entièrement en lingala, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup.
Est-ce que t'as envie de prolonger aussi cet amour de la Bretagne, peut-être dans des futurs projets ?
Oui, j'ai envie de prolonger cet amour pour la Bretagne. Je me dis, j'aimerais bien être la première Congolaise à chanter en breton.
Donc, ça serait génial. Donc,
challenge d'apprendre le breton. Et j'aimerais vraiment mélanger les sonorités un peu bretonnes avec les sonorités congolaises. Et pourquoi pas, en effet, chanter en breton. Et je me dis, tant qu'on respire, tout est encore possible. Donc, je me donne ce challenge-là d'apprendre le breton.
C'est un beau projet. Et donc, est-ce que là on parle de Tika, est-ce que donc c'est aussi le préquel d'un album à venir ?
C'est le préquel d'un EP à venir, qui va s'appeler Bolingo, et j'annoncerai bientôt la date de sortie. En effet.
Donc, on a hâte de voir ça en tout cas.
Ah merci. Il y a pas mal de petites choses en préparation. La vie est pleine de surprises et je me laisse porter. Et voilà, il y a cette EP qui va pointer son bout de son nez. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir présenter le projet. Je sais que je vais présenter l'EP, mais j'ai déjà pas mal de choses que je continue à composer, des voyages, des rencontres. Donc c'est super, c'est une belle aventure.
Bah oui, parce que donc des aventures, tu en as créé plusieurs, parce que notamment en parallèle de ta carrière de chanteuse, tu as créé un podcast qui s'appelle Miziki Talk. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce projet-là ?
Waouh, oui, Miziki Talk, oui, c'est mon deuxième bébé. Miziki Talk, justement, c'est ce podcast. Bon, Miziki qui veut dire musique en lingala. Vous verrez qu'il y a beaucoup de lingala dans ce que je fais. Donc, Miziki Talk, discuter en anglais. En gros, l'idée de Miziki Talk, c'est vraiment d'inviter des personnalités célèbres ou pas, parce que je me dis que chaque personne est finalement acteur de sa vie et artiste de sa vie. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir les personnalités à travers une bio musicale. Et je suis très, très fière de ce projet parce que ce projet m'a beaucoup aidée à une période de ma vie où je n'allais pas bien au niveau santé et je ne pouvais plus chanter du tout. Et à travers ce podcast, ça m'a permis de faire de la musique sans en faire et surtout de voir que la musique pouvait aider les gens et que la musique avait une place importante dans le quotidien de tout le monde finalement. Et voilà ce projet Miziki Talk, la saison 2 est en cours de diffusion et je suis déjà sur la saison 3, donc j'ai hâte.
Est-ce que c'est ça aussi qui a aidé à la naissance des ateliers Miziki ?
Exactement. Oh là là, tu t'es bien documentée.
Bah oui.
Exactement, parce que tout est lié finalement. Donc Willy la chanteuse, Willy qui anime des ateliers, Willy la productrice de podcast. En gros, à la suite de ce podcast, je me suis dit, mais waouh, la musique, elle fait tellement de bien. Déjà, elle m'a fait beaucoup de bien quand je n'allais pas bien. Et du coup, je suis certifiée. Maintenant, je suis art-thérapeute. Et j'utilise vraiment la musique et les vibrations de la voix pour soigner les gens, soigner les traumas, pour les accompagner dans un pour qu'ils puissent embrasser la meilleure version d'eux-mêmes. Et du coup, les ateliers musiciens, en effet, des ateliers qui sont faits donc en mixité choisie ou pas, et durant lesquels, de manière ludique, on peut débloquer des traumas, permettre aux gens de retrouver l'estime de soi en s'amusant.
C'est un autre beau projet, en tout cas. Très intéressant.
Merci beaucoup.
Et donc, merci beaucoup en tout cas, Willy, d'avoir été avec nous, d'avoir vu partager ce moment avec nous aussi.
Ah non, merci à vous, merci vraiment à vous de m'avoir permis de présenter mon projet et puis voilà.
Est-ce que
une bonne soirée.
Pour nos auditeurs qui seraient intéressés de pouvoir te voir en concert, quelles sont tes prochaines dates?
Les prochaines dates, donc en Bretagne, pour l'instant, c'est en discussion, donc je peux pas pour l'instant en parler. Par contre, s'ils veulent prendre un billet pour me voir à Paris, je serai le 27 avril au Lavoir Moderne parisien.
Eh ben, merci beaucoup. Et on va se quitter sur un autre de tes singles avec Imagine.
Merci, waouh, Imagine.
Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait plus de barrières, que tout est vert. Kanisa, Ozotambola, Namote Manayo Pepele. Imagine que toutes les portes sont ouvertes pour réaliser tous tes rêves. Bazo sali sayo nanzela, nanzela na yo. Imagine que toutes les portes sont ouvertes pour réaliser tous tes rêves. Bazo sali sayo nanzela, nanzela na yo.
C'était Willy avec Imagine sur Radio U. Vous écoutez toujours C'est vous qui le dites, et avant de se dire au revoir comme tous les mercredis, c'est le moment de la chronique de Gwen. Salut.
Bonsoir.
Gwen. Alors que la sélection officielle du prochain festival de Cannes a été dévoilée la semaine dernière, tu reviens aujourd'hui sur l'un des derniers films de la sélection 2024, La jeune femme à l'aiguille, du réalisateur suédois Magnus von Horn.
Et on peut croire au début à un énième drame social qui raconterait l'émancipation d'une jeune ouvrière sur fond de lutte des classes. et on veut croire qu'une histoire d'amour est possible avec ce gentil conte aux bons sentiments remplis d'humanité. Mais alors que la jeune femme tombe enceinte et que le mariage est inenvisageable, elle tente de reprendre le contrôle avec cette fameuse aiguille, aiguille qu'elle veut s'infliger dans l'espoir de mettre un terme à sa grossesse. C'est à ce moment qu'arrive une femme en qui, là encore, on veut voir un espoir. On veut croire que ce bébé qui finit par voir le jour sera adopté par une noble famille. Mais le spectateur est en permanence trompé face à un récit qui accumule les désillusions et prend une trajectoire foncièrement tragique, une histoire qui déçoit, une histoire qui dégoûte aussi. La fascination pour le dégoûtant transpire dès le départ avec ce retour du combattant à la gueule cassée, exhibé comme une bête affreuse dans un cirque qui rappelle évidemment le Freaks de Todd Browning. Mais là où le cinéaste est particulièrement malicieux, voire pervers, c'est qu'il ne s'arrête pas à ces scènes explicites. Il distille une atmosphère inquiétante avec notamment un travail sur le son qui nous effraie, sans qu'on sache bien pourquoi. Les apparences sont décidément bien trompeuses et les personnages en qui l'on pouvait placer espoir et confiance se révèlent les plus grands criminels. C'est alors qu'on passe du tragique à l'horrifique, inspiré d'un fait divers peut-être le plus grand crime dont l'homme est capable. Horreur démultipliée par sa sublimation, parce que d'un point de vue esthétique, le cinéaste s'inspire du cinéma muet, du cinéma expressionniste, pour appliquer à son œuvre un vernis cinégénique qui renvoie à ce qu'on connaît déjà, comme le cinéma des frères Lumière, pour que l'étrange surgisse dans un cadre familier. D'autres y voient des influences de Lynch ou de Bergman. Une chose est sûre dans sa façon bien à lui de crisper le spectateur, de nous plonger toujours plus profondément dans l'horreur, Magnus von Horn est bien l'inventeur d'un style et d'un genre. C'est un film choc, une vraie bombe traumatique.
Depuis quelques années, on entend beaucoup parler aussi de l'intelligence artificielle, peut-être aussi qu'on l'utilise. On commence donc à avoir un certain recul sur le phénomène auquel est consacré le dernier numéro de Cache Investigation sur France 2.
On connaît ce magazine télé pour la figure emblématique d'Élise Lucet et puis son ton souvent un peu provoque. Mais il faut quand même rappeler que c'est un des rares magazines d'investigation proposés en France. Et plutôt que de proposer des grands débats de fond ou des grandes réflexions philosophiques un peu abstraites comme on a vu fleurir ces dernières années, leur équipe de journalistes s'est efforcée de rendre ce concept virtuel le plus concret possible, en se demandant quel était l'impact de l'IA sur nos vies, nos entreprises, nos postes. Question épineuse, et la réponse fait froid dans le dos, parce qu'elle est à double tranchant, alors qu'en France, en Europe, on s'inquiète du fait que l'IA remplace des postes de fonctionnaires, dans l'administration, dans le fisc, les ressources humaines. Ailleurs dans le monde, dans les zones les plus défavorisées, l'IA embauche des dizaines de milliers de travailleurs du clic pour entraîner et améliorer le système. Comme toujours, les évolutions technologiques favorisent le confort des uns au détriment des conditions de vie des autres. Curieuse dystopie qui semble de plus en plus réelle.
Merci beaucoup Gwen. Et nous on se dit au revoir et on se retrouve demain, même heure, sur Radio U pour une nouvelle quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous.